Merci beaucoup. Alors voilà, je vois bien que je dois me présenter. Donc je m'appelle Paolo Fabri, ça a été dit. Et j'enseigne maintenant à Rome, donc j'ai des excuses pour être là. Et voilà. Mais j'ai aussi enseigné longtemps à Paris et j'ai travaillé aussi à l'Institut culturel italien, mais bien avant du formidable travail qu'a fait Madame Marumo. Voilà, donc, si vous me le permettez, je vais un petit moment autobiographique, c'est-à-dire le moment où j'ai reçu de la part de mon ami Paolo Carile, qu'on connaît depuis quelque temps, il m'a demandé, mais est-ce que tu pourrais pas faire les conclusions du colloque? Alors, je me suis dit, oui, je veux bien, mais il me faudra improviser. Il m'a dit, ben oui, mais donc, oui. Alors, j'ai accepté les défis. Et puis, j'ai contrôlé le programme. Et j'ai découvert que j'avais 15 minutes pour le faire. Alors, j'étais absolument fasciné. J'ai dit, donc, c'est un colloque qu'on pourra résumer en 15 minutes. Donc, c'est pas vrai, très intéressant. Et parce que sinon, non, c'est le contraire. Donc, je prendrai un peu plus de temps, si tu me le permettras. Alors, au premier moment, je me suis dit, 15 minutes, c'est bien, parce que vous savez que j'ai eu l'expérience, j'ai fait des conférences dans ma vie, et de faire des conférences que les Japonais appellent pechakucha. Vous la connaissez peut-être, c'est vous avez le droit de parler 9 minutes, mais vous avez 20 slides de projection. Mais ici, on n'a pas de projection, donc rien à faire. Alors je me suis dit, est-ce que je pourrais trouver une formule pour résumer la chose d'une façon vraiment cohérente et compétente? Et je me suis dit qu'on devrait pouvoir, parce que vous savez qu'un jour, le lycée italien était terrible dans les années 50, quand j'ai étudié, on m'avait expliqué qu'on pouvait résumer bien de choses très compliquées. Par exemple, j'ai traduit le français, un homme, une femme, une pomme, un drame. Voilà, donc un très bon résumé de quelque chose d'assez compliqué, assez long et fondateur, si j'ose dire. Alors donc voilà, je me suis dit, je peux m'y engager, mais malheureusement, ça n'a pas marché, je n'ai pas trouvé les 4 mots alternés masculin-féminin, d'ailleurs, comme vous avez remarqué. Et donc voilà, je suis obligé à être un peu plus long. Mais avant de le faire, permettez-moi de encore un moment autobiographique. La chance, ma chance, veut qu'aujourd'hui, sur Amazon, apparaît pour la première fois l'e-book en 3 volumes de le livre des rêves de Fellini. Alors, vous savez que je suis de Rimini, vous ne savez pas, mais c'est pas maintenant c'est dit. Fellini est de Rimini aussi. Avec l'éditeur Guaraldi, nous nous sommes amusés à prendre son grand, grand livre de rêves. Vous savez que Fellini a écrit pendant toute sa vie ses propres rêves et dessiné ses propres rêves. C'est un corpus absolument extraordinaire et qui a été édité, mais d'une autre façon, sur papier. Et donc, on a pu, aujourd'hui, il y aura 3 volumes qui sortent sur Amazon au niveau international, traduits dans plusieurs langues, dont le français, l'espagnol, l'anglais et l'allemand, etc. Et donc, 2 ce soir, ça tombe très bien pour moi. Et il y aura ce livre important de Fellini. N'oubliez pas que Fellini a quand même fait un film qui s'appelle Roma et que dans ce film, il y a un célèbre auteur américain qui est l'auteur de Mira Birkenbridge et d'un livre sur l'empereur Julien, je ne vous dirai pas le nom, vous devez le deviner, et qui dit « Rome, c'est un très bel endroit pour attendre la fin du monde ». Voilà. Alors voilà, donc maintenant je passe tout de suite à la réflexion immédiate sur les résumés. Alors, j'ai entendu plusieurs métaphores qui ont été utilisées pour l'échange entre Paris et Rome. Et plusieurs métaphores. Il y en a une qui était les regards. Alors, les regards croisés... Évidemment, le miroir aussi. Donc, c'était des métaphores de la vision. Et que, évidemment, on a insisté beaucoup que ce miroir était quand même un miroir un peu biaisé. Et on avait raison, je le trouve. Et, mais il y avait une autre... vous savez que les miroirs sont souvent inversés. Et il y avait une autre métaphore qui m'a beaucoup intéressé. C'est une métaphore biologique, c'est la gémellité. On a dit qu'il y a beaucoup de... C'est des villes jumelles ou jumelées, etc., etc. Mais j'ai, si vous me permettez, qu'à la conclusion, je trouve que c'est des jumeaux hétérozygotes. Ils ne sont pas homozygotes, c'est le minimum qu'on puisse dire. Il y a une autre métaphore qui a été employée, qui m'a beaucoup intéressé, évidemment, qui ont à faire avec le langage. Et c'est ça qui m'a intéressé le plus, et évidemment pour mon métier. Et c'est la traduction, et aujourd'hui, on a très bien dit la créolisation. Je trouve que ces deux métaphores sont très intéressantes. Et parce que dans les deux cas, ça a été dit très bien par Madame Jandro-Massalou, les traductions ne suppriment pas les langues. Et c'est ça qui est essentiel. Et je dirais même qu'une bonne traduction enrichit la langue de départ au nom de la langue d'arrivée et vice-versa. Donc d'une certaine façon, les traductions creusent dans les langues et ils inventent des façons de les rendre, comme on dit. Mais l'autre idée mais c'est déjà Madame Jandro-Massalou qui l'a dit, c'est l'idée que inévitablement dans deux contacts il y a du pidgin, c'est-à-dire de simplification brutale, de culturelle. Mais si on arrive à la réélaborer, c'est vrai que des langues nouvelles peuvent naître. Et donc l'idée que, et ça a été annoncé et demandé même à la conclusion. Ce qui serait intéressant dans la créolisation des cultures, et voilà donc pour le futur, sera l'idée comment est-ce qu'on peut passer du pidgin, c'est-à-dire de la langue simplifiée dans laquelle on rentre en communication, à l'invention d'une langue nouvelle. Et c'est ça, à mon avis, qui est le thème de... Je crois que Paolo Carille voudrait que ça soit comme ça. Je reviendrai à la métaphore de la traduction qui a été introduite très clairement hier. Et pour faire une différence entre les traductions, il y a des traductions target-oriented, comme on dit, ou source-oriented, c'est-à-dire des traductions qui mettent en valeur les côtés ardus, difficiles de la langue qu'on doit traduire, qui soulignent que la langue, par exemple l'italien, n'est pas la langue si simple qu'on croit. Quelqu'un qui connaît l'organisation des temps, mais surtout l'organisation rhétorique de l'italien, les Français doivent avoir eu l'expérience, ils s'en apercevront facilement. La même chose pour les Français. Alors donc, vous pouvez traduire pour faire comprendre à quel point la langue de départ est compliquée. Alors donc, on peut multiplier les difficultés pour comprendre l'italien. Alors tout le monde a dit aujourd'hui, vous savez, l'Italie est un pays beaucoup plus compliqué qu'on le croit. Et ça m'a beaucoup amusé, parce que c'est une expérience malheureusement quotidienne. De l'autre côté, il y a une autre version de la traduction qui est target-oriented, c'est-à-dire qui est très amicale par rapport au destinataire, qui essaye de faire comprendre que finalement c'est un peu la même chose, que finalement on traduit, mais finalement on est tous dans le même lieu. Alors j'ai eu l'impression qu'on a fait les deux choses. Ces jours-ci. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui insistaient beaucoup sur la complexité et la difficulté de ce type de traduction, la différence, si j'ose dire, et de l'autre côté, des gens qui disaient « mais non, finalement, il s'agit plus ou moins de la même culture, etc. » Je ne dis pas les noms des gens, mais je crois que ça a été finalement plutôt comme ça que ça s'est passé. Alors, je vais résumer la chose en disant « l'Italie, et la France, je ne sais pas, mais Rome, où j'enseigne, mais non, et Paris, c'est des différences qui se ressemblent. » Voilà, donc j'insiste sur cette formule. Comment trouver des différences qui se ressemblent? Je crois qu'on a fait cette expérience. On a fait cette expérience des traductions, mais orientées d'un côté et de l'autre. De l'autre côté, j'ai cité hier avec le professeur Grégory une phrase qui m'est chère, que j'ai malheureusement répétée devant des collègues ici qui m'ont pardonné. C'était une phrase d'un grand personnage moins connu de la Renaissance italienne qui s'appelle Ermolao Barbaro. Ermolao Barbaro a dit un jour de la traduction « Non est tam reddere quam certare », si vous préférez « certare ». C'est-à-dire, ce n'est pas tellement rendre dans la traduction que se battre. Certare, c'est le certamen, c'est la guerre. Donc il y a une bataille sous-jacente. Il y a quelque chose plus bas dans lequel il y a des oppositions. Alors je trouve que ces oppositions n'ont pas été mises en évidence. On ne s'est pas bagarré assez aujourd'hui. Et voilà, ça je devrais, ni hier. J'aurais aimé qu'on se dispute un peu. Je l'ai espéré aujourd'hui avec les journalistes qui ont dit des choses tout à fait passionnantes et ils ont oublié, par exemple, de parler des publicités. C'est assez curieux que les journalistes oublient toujours de parler de la pub. Mais enfin, bon, ça, c'est pas bien grave. Ça aurait expliqué beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui. Mais enfin, ça on va pas se plaindre. Alors voilà. Premier point qui m'a beaucoup passionné hier. Madame Gendron-Massalou, dans son résumé, a déjà un peu dit ce qui s'était passé, et puis ça a été repris par Patrick Talbot. Donc, permettez-moi de le résumer d'une façon un peu outrageuse. La chose qui m'avait... Enfin, ça n'a pas été dit, mais tout le monde le sait ici, c'est la phrase de Freud. L'inconscience est une pierre romaine. C'est-à-dire que l'inconscient porte en lui-même tous les strates que vous connaissez, voilà, bon, que... L'ancien, la Rome du pape et la Rome de l'unification. Alors cette idée de cette pierre romaine qui est stratifiée a l'air un peu immobile. Pierre stratifiée égale immobilité. Mais je pense qu'une bonne opposition qu'on pourrait faire, n'est-ce pas, c'est que la France a toujours, avec son modèle, introduit un dynamisme dans cette côté statique. C'est-à-dire, les Italiens ont cherché en France le modèle d'un dynamisme par rapport à leur stratification riche et compliquée. Et je trouve que peut-être c'est une des choses qui se sont passées. Et à propos de l'Italie dont on a parlé et sur laquelle on a donné un prix hier, très justement, à Pierre Milza, pensant Garibaldi, je voudrais faire une remarque de résumé. Ça a été très bien dit hier avec... les descriptions de ce qui s'est passé après l'unification. L'Italie est un pays de guelfes et de gibelins. Je le répète, l'Italie est divisée en deux. Il y a les guelfes et les gibelins. Les guelfes, c'est le pape, c'est les catholiques, c'est un certain type de traduction. Les gibelins, c'est les autres, vous n'avez qu'à changer l'opposition. Rome est exceptionnelle par rapport aux autres villes italiennes, ça a été dit mille fois, mais elle est exceptionnelle aussi parce qu'il y a le pape, il y a la cité du Vatican et Dieu sait si c'est pas important. L'autre jour, j'étais à Rome et j'étais mangé dans le ghetto. Et l'ancien ghetto qui a été démoli par les Italiens les Piémontais ou les Italiens qui sont rentrés. Alors, il y avait un moment dans lequel j'ai vu passer des bersaglieri italiens, trois ou quatre, qui jouaient de la trompette. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Et la réponse était très simple. Ils fêtaient Porta Pia, c'est-à-dire les moments dans lesquels l'Italie est rentrée, on a démoli les ghettos. Alors, donc ça, je crois qu'on était 12 à avoir compris qu'est-ce qui se passait, mais ce n'est pas bien grave. Maintenant, on est un peu plus nombreux. Et alors, ça, j'insiste là-dessus. C'est un moment fondamental, l'idée qu'on a bien citée, l'idée que le culte de la patrie, le culte de la nation qui s'est installé contre l'autre culte et qui explique, comme Cederna a démontré très bien, la réorientation qu'on a essayé de donner à Rome après l'unification. Avant, Rome était axée sur le Vatican. Après, on l'a redressée pour l'orienter autrement. Donc, on a tourné la ville, on a essayé de tourner la ville de plusieurs façons. Et je trouve que ce moment est essentiel, et ça la France a été, ça a été dit dans l'intervention sur Haussmann, un très grand modèle. La preuve, quand ça a été cité par plusieurs personnes dans leurs interventions, avec Yves Versant, on bavardait un moment et tout de suite je lui dis ce qu'il faudrait faire, c'est parler du voyage de Zola. Alors il m'a regardé, il m'a dit mais moi je vais en parler demain. Alors d'accord, on s'est trouvé d'accord. Non, la chose intéressante chez Zola, c'est que Zola, qui a donné les jugements les plus cruels que je connaisse de Rome, il a dit une ville avec une aristocratie décadente, une bourgeoisie qui ne s'est pas faite et un peuple misérable et ignorant. Ça, c'était Rome à l'époque de Zola. Voilà. Mais il a dit, ah, qu'est-ce que c'est étroite cette ville, qu'est-ce que c'est serré, qu'est-ce que c'est froid tout ça. Et s'il y avait Haussmann, qu'est-ce que ce serait bien. Vous voyez, donc il y avait toujours cette idée qu'il y avait un modèle et que ce modèle, les Parisiens emportaient leur modèle et emportaient le modèle dans une ville dans laquelle il y avait eu quand même toute une histoire riche et compliquée. Je trouve que ça a été important que ça soit été dit hier. Et je voudrais ajouter, si vous me permettez, un petit grain de sel sur cette époque de l'entrée des Italiens à Rome et aussi de la guerre avec les Français qui, pour la République romaine. Enfin, n'oubliez pas qu'il y a pas mal de soldats et d'officiers français ensevelis dans San Luigi dei Francesi, à côté de Caravage, naturellement. Donc c'est un bel endroit pour être enseveli, qui sont les soldats qui sont morts à la prise de Rome contre Garibaldi. Hier, ça n'a pas été dit, mais peut-être il faut le dire. Il faut ajouter un détail insignifiant, c'est que l'auteur de l'hymne national italien, il canto degli italiani, qui s'appelle, non pas canto, mais comme ça, et il s'appelle Mameli, il a été tué par une baïonnette française. Alors, imaginez-vous si Roger de Lille avait été tué par un soldat italien, ça ferait quand même un scandale, bien sûr, n'est-ce pas? Mais enfin bon, alors, je ne veux pas... non est tam reddere quam certare, c'est-à-dire quelques petites difficultés, il faudra l'introduire entre nos pays. Et en effet, le fait que... J'ai contrôlé bien l'affaire, mais il paraît qu'en réalité, il s'est fait blesser par la baïonnette d'un copain. Mais je crois que cette histoire a été quand même un peu arrangée pour ne pas énerver les amis français. Voilà, donc voilà. Je reviens donc à cette affaire. Mais il y a un épisode que je n'ai pas trouvé dans le livre de Milza. Ce n'est pas une critique, pas du tout. Parce que cet épisode est cité par les deux romans de Garibaldi. Moi, je vous demande pas de les lire. Umberto Eco m'a dit que c'est le pire roman de l'histoire du XIXe siècle. Donc, inutile que vous les lisiez. Mais il y en a un, l'un s'appelle Clélia, ou la maîtresse du cardinal. Déjà, vous voyez l'affaire. Le deuxième s'appelle Manlio, les volontaires. Et les volontaires va se battre contre les Français, contre le général Oudinot, dans les villas de Rome. Manlio raconte une histoire que Garibaldi ramène et qui, à mon avis, n'a jamais été racontée sur cette époque. Mazzini était très religieux et il n'a jamais permis que les églises romaines, pourtant très riches et avec un peuple très pauvre, soient saccagées. Vous savez, vous l'avez vu récemment, les musées, tout ça est saccagé immédiatement. Donc, à l'époque, Mazzini, croyant, déiste, pas du tout catholique ou chrétien, il a empêché, et ça a été à son grand honneur, à propos de comment est-ce qu'on peut conserver un patrimoine. On le conserve aussi par idéologie, par des choix politiques. Alors, il a décidé de ne pas, absolument pas, faire toucher à rien dans les églises romaines. Ce qui a été important. Ce qu'on racontait en Europe, c'était le contraire. Mais c'était évidemment les paroisses qui racontaient ces choses-là. Mais il y a un détail extraordinaire que j'aimerais bien vérifier, et j'aimerais, avec la passion que anime notre ami Paolo, j'aimerais bien qu'il contribue à ça. Les églises romaines ont été vidées des confessionnaux. On a pris tous les confessionnaux, on les a portés sur la piazza San Pietro, on les a brûlés. L'idée, c'était que les confessionnaux servaient non pas pour l'adoration, mais pour le contrôle des âmes. Et donc l'idée fondamentale, c'était que la libre pensée, et ça a été en effet l'arrivée à Rome, ça a été cité, Nathan, juif, franc-maçon, etc., etc., premier maire de Rome, ont été quand même fondamentales. Alors, je n'ai dit pas que ce soit... J'ai dit tout simplement que cette dimension... Guelph et Ghibelline est inscrite dans Rome. Et je trouve que c'est très important, à mon avis, de le mettre en évidence. Je termine immédiatement sur la question qui m'a beaucoup passionné, qui m'a vraiment passionné, c'est la question des arts. On a beaucoup cité, évidemment, les nombreuses réunions désormais d'italiques ont laissé leurs traces. Et donc, on n'a pas parlé de Marinetti, qui, lui, juste avant, Patrick Talbot nous a dit, juste avant Marinetti, juste avant que ce soit proposé par les Corbusier, en 1912, avait demandé qu'on détruise tous les palais décadents de Venise, qu'on remplisse les canaux avec les briques et qu'on fasse un très grand camp d'aviation. Voilà. Il a fait ses discours en 12 à Venise. Il a été poursuivi avec les siens à coups de bâton par les Vénitiens, mais il est arrivé jusqu'à la gare. Voilà. Alors, l'autre personnage extraordinaire qui était ici, mais n'oubliez pas que Marinetti est le premier traducteur de Mallarmé. Hein. Je veux bien qu'il était fasciste, mais je n'aimerais pas qu'on oublie Mallarmé non plus. Alors, la deuxième chose, c'est De Chirico. Moi, je trouve qu'on n'a pas assez évalué l'importance fondamentale, dans le bien, dans le mal, de ces personnages. Un seul détail, pour le discours qui nous a été tenu aujourd'hui sur Modigliani, qui était très beau. Alors, je voudrais vous raconter quelque chose sur la passion des Italiens pour la peinture. Je sais qu'on peut dire que ça, on peut la mesurer par les visites dans les musées. Pas seulement. Et il y a quelques années, pas tellement d'années, on a découvert 4 têtes de Modigliani dans un canal à Livourne, ville de naissance. On les a sortis, on a fait une exposition fondamentale, une introduction fort intéressante, etc. Et puis, il y a 4 garçons qui travaillaient à l'Académie des Beaux-Arts qui ont dit « Mais non, c'est nous qui les avons faites. » Et ils ont montré l'instrument Drucker avec lequel ils l'ont fait. Il y a eu un débat formidable en Italie, tellement important que les gens de Livourne se sont mis avec leur Modigliani, et il y avait, chaque fois qu'il y avait une rencontre de football avec d'autres équipes, les gens de l'équipe, les souteneurs de l'équipe de Livourne criaient, non pas Livourne, Livourne, mais maudit, maudit. Vous savez donc que les Italiens aiment l'art, vous l'avez vu. Ça, c'est une preuve que je trouve définitive. Voilà, je termine donc de la façon la plus simple. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ça a été très bien dit. C'était très bien dit. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit, regardons devant et voyons qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a eu des suggestions aussi, de commander et non pas simplement d'analyser. Ce qui m'a beaucoup frappé, et ça a été l'introduction même de notre discours, et puis j'ai lu la reprise, c'est ces personnages curieux de Ricciotto Canudo. Ricciotto Canudo, italien, présent à Paris, etc., et qui a inventé le concept de septième art. Et qui donc a fondé, enfin, dans toute l'histoire du cinéma, on commence par ça, il y a Ricciotto Canudo qui a dit que c'était de l'art. Mais avant, c'était pas de l'art. Donc, Ricciotto Canudo est l'opérateur de ce qu'on pourrait appeler l'artification. Alors, à mon avis, ce qu'il faudrait faire maintenant, et j'aimerais bien qu'on travaille là-dessus, c'est comment les deux cultures, l'Italie et la France, enfin, je m'excuse, Paris et Rome, ont travaillé pour artifier ce qui n'était pas art. C'est-à-dire, vous savez, l'art n'est pas éternel. Parfois c'est de l'art et parfois pas. Avec l'art, on ne devrait pas se poser la question « qu'est-ce que c'est ?», question ontologique, mais « quand et comment ?», qui est une question beaucoup plus pragmatique. Alors, ce serait plus intéressant, n'est-ce pas, de supposer les moments dans lesquels, par exemple, des arts mineurs, comme on dit, des pratiques artisanales sont devenues des arts mineurs. Et comment les arts mineurs sont devenus des arts majeurs. Enfin, en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le cirque est de l'art? Moi, j'aimerais bien dire oui. Est-ce que la magie est de l'art? J'aimerais bien pouvoir dire oui. Mais il y a eu un moment dans lequel la photo, Patrick Talbot le sait mieux que nous, n'était pas de l'art. Elle est devenue. Alors, j'aimerais beaucoup qu'on voit comment nous en sommes au niveau de l'artification. Est-ce que Rome et Paris est une grande ville artificatrice? Elle n'est peut-être, elle n'est plus une grande productrice d'art, mais elle est une grande, au sens des artistes qui produisent de l'art, mais elle est une grande ville pour la production d'art. Dans le sens, elle a su, dans les dernières années, faire ce que les Italiens n'ont pas su faire, quoique Ricciotto Canudo était venu là pour le dire, c'est-à-dire de faire passer toute une série de pratiques qu'autrefois avaient été disqualifiées dans la dimension qu'on appelle artistique. Alors, bien sûr, après, on a posé la question, on l'a dit avant, est-ce que c'est comparable à ce qui était avant? Mais non, mais ce n'est pas mon problème. Alors donc, vraiment, j'aimerais beaucoup qu'il y aurait donc, d'un côté, la défense du patrimoine, mais de l'autre côté, l'artification des pratiques qui ne l'étaient pas. Et d'une certaine façon, ce qui serait amusant, c'est de penser que le patrimoine a été une désartification des arts. On a transformé les arts en patrimoine, on les a désartifiés. Mais en même temps, on a pris d'autres pratiques artistiques et on les a artifiées. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on pense à ça et qu'on en discute. Bien, deux dernières remarques. La première est consacrée au journalisme, le deuxième, c'est le théâtre. Aujourd'hui, j'ai écouté les journalistes et j'ai fait une réflexion que je vais partager avec vous. Il y a une différence fondamentale. Je défends la catégorie des professeurs, là, mais vous m'excuserez. Il y a une différence radicale entre la formation et l'information. L'information veut que dans un instant, l'information, la nouvelle, soit pour tout le monde, le maximum d'espace avec le minimum de temps. Nous, le pauvre formateur, les gens qui se réunissent ici pour échanger des idées, etc., nous, on aimerait beaucoup avoir beaucoup de temps, c'est pour ça que ma conclusion est longue, mais un petit espace, même s'il est si beau. Petit espace et beaucoup de temps. Ça, c'est la formation. Et c'est le contraire du journalisme. Et aujourd'hui, je me suis aperçu, j'ai écouté les journalistes pour lesquels j'ai une estime, que je lis régulièrement, qu'ils ne s'aperçoivent pas de la différence. Et j'aimerais bien qu'un jour ou l'autre, cette rencontre soit un lieu dans lequel on leur apprenne. Dernier, les théâtres. Et on a parlé avec beaucoup d'enthousiasme de Dario Fo et de Strehler. Et on les a opposés d'une façon tout à fait juste. On a dit, Dario Fo, c'est l'improvisation et la comédie dell'arte. Strehler, c'est le contraire. C'est, il y a un texte, on le gratte jusqu'au bout, on les exécute d'une façon impeccable, le jour après, il sera exactement le même, etc., etc. Je pensais à la musique. Je pensais d'un côté à, je ne sais pas, Rossini, d'un côté, et de l'autre côté, le free jazz. Et c'est la même chose. Vous avez une partiture bien écrite, claire, et vous avez des exécutions différentes, qui sont tous des originaux par rapport à la partiture. Mais, voilà, dans le cas du free jazz, c'est autre chose, il n'y a pas de partiture. Ça s'improvise. Alors, c'est évident que notre ami Dario Fo est du côté du free jazz, et que Strehler était du côté de l'exécution. Faut dire Rossini, mais j'aurais pu dire Mozart. Et si c'était une grande métaphore politique et sociale? Et si la France avait représenté longtemps le premier modèle, le modèle Strehler, c'est-à-dire une société bien organisée où l'État était capable de réaliser, produisant des originaux, mais des exécutions centralisées, bien pensées, pour lesquelles les Italiens se pensaient un peu à leur politique, à leur vie sociale, comme une commedia dell'arte. Est-ce que c'est vrai que les Français ont pensé toujours aux Italiens comme une commedia dell'arte qui faisait de l'improvisation? Enfin, un regard, si vous me permettez, un regard qui partait de Strehler vers Dario Fo. Voilà, les Français étant strehleriens et les Italiens foyens, enfin, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'était pas ça? Est-ce que ce n'est pas le moment dans lequel il faut arrêter cette opposition? C'est-à-dire la crise de l'État, qui est en Italie endémique, mais qui en France est croissante, et on le voit très bien, un appauvrissement de l'organisation d'État, qui n'est pas dû à une faiblesse de l'État français, c'est la confrontation, qu'on a dit, avec une organisation de l'espace mondial tout à fait différente. Donc, s'il n'était pas nécessaire d'introduire un peu de romain improvisé à l'intérieur d'une bonne exécution musical. Alors, je ne sais pas, je me demande si on n'a pas trouvé dans le théâtre une bonne, même excellente métaphore sociale et politique. Un peu plus de faux dans Strehler. Un peu plus de Strehler dans faux. Est-ce qu'on va réussir cette créolisation? Moi, je l'espère de tout mon cœur. Merci.